Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment de la saga de dystopie fantastique Absolue, parue chez Big Bang, numéro 1 des ventes jeunesse à sa sortie. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition et qui vous aide à aller des premières idées à la publication de votre roman. C'est aussi une académie en ligne avec des masterclass et des ateliers en live chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, j'ai pris quelques jours de repos et pour autant, je suis toujours aussi fatiguée. La vie est belle, j'adore. J'ai l'impression que c'est la fin de l'hiver qui fait ça. Mais en tout cas, je suis très très contente d'être aujourd'hui avec vous en compagnie d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Chris Vuklicevic. Sachez que je me suis entraînée mentalement dans ma tête pour pouvoir prononcer son nom de famille. C'est pas sympa d'avoir un nom de famille aussi complexe.
Bravo Margot.
Merci, c'est gentil. Qui est autrice, traductrice et qui vient nous parler aujourd'hui du fait de donner une voix à son récit. On va parler de plein de choses, on va parler de son parcours, du fait qu'elle écrit dans plusieurs genres différents sous plusieurs noms, que tu es un peu multicasquette, il faut le dire, hein, Chris. Et merci d'avoir accepté cette invitation, je suis plus qu'honorée de t'avoir avec moi.
Merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être là.
Ah bah tant mieux alors. Dis-moi, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ?
Oui, alors comme tu l'as dit, j'ai plusieurs noms, plusieurs casquettes, donc je vais essayer de faire simple. Donc on va dire que mon nom principal, c'est Chris Vuklicevic. C'est un nom serbe, voilà, d'où le côté un peu compliqué. C'est mon prénom, c'est pas un pseudo, parce qu'on m'a déjà demandé, mais pourquoi t'as choisi un pseudo aussi compliqué ? Mon nom de jeune fille. J'ai publié mon premier roman en 2021 chez Folio SF dans le cadre d'un concours. Je ne sais pas si tu voudras qu'on revienne là-dessus par la suite. Mais voilà, donc ça s'appelait Dernier jour d'un monde oublié, c'est de la fantasy. Ensuite, en 2023, mon deuxième roman a été publié chez De Noël Lune d'encre. Et donc sous le même nom, ça s'appelle Du thé pour les fantômes. Et mon troisième roman, qui est paru début 2024, c'est Porcelaine sous les ruines. Et cette fois, c'est de la romantésie. Et là, c'est sous un autre pseudo, c'est Ada Vivalda, aux éditions Olin.
Tu ne nous facilites pas la tâche, parce que tu fais ça, tu es traductrice, tu as deux noms, trois maisons d'édition, tu écris dans trois genres différents. En tout cas, sur les trois romans, il n'y en a pas un qui est dans le même genre.
Ouais, c'est vrai que dans mon roman Du thé pour les fantômes, il y a un personnage qui est un peu fou et qui a 57 personnalités. Et souvent, je dis que c'est moi, en fait. Mais on ne sait pas, peut-être qu'à la fin de ma carrière, j'aurai 57 romans et 57 pseudos. Non, j'espère pas. Mon éditeur va me tuer si je fais ça. Déjà, deux pseudos, c'est compliqué. Mais ouais, on pourra aussi en reparler. Ça se justifiait vu le changement de genre radical avec le troisième roman de changer aussi de pseudo. Mais les trois romans se situent dans le cadre de l'imaginaire, en tout cas. Oui,
ce qui nous aide déjà un petit peu plus, effectivement. Tu l'as dit, tout a démarré avec Dernier jour d'un monde oublié chez Folio Fantasy. C'est un récit de fantasy post-apocalyptique qui a remporté le concours des 20 ans de Folio SF et le prix Elbakin.net. Est-ce que ça a commencé par là ? Est-ce que, en fait, ce livre était dans tes tiroirs depuis un moment ? Est-ce que tu l'as écrit pour le concours ? Ou finalement, ce n'est pas ton premier roman ? Enfin, raconte-moi, toi, comment tout a démarré ? J'adore connaître la genèse d'écriture des écrivains, parce que finalement, on en a tous une un peu différente.
Alors, ce roman, c'était mon premier roman que j'ai vraiment terminé. Mais j'ai bossé dessus pendant, on va dire, 10 ans. Avec évidemment en alternance, avec des périodes de creux, etc. Mais en tout cas, l'idée de base m'était venue quand j'avais peut-être 18 ans. Et à la base, c'était un roman jeunesse, tout coloré, tout sympathique, parce que c'était ma période Harry Potter. Et puis, bah, forcément, entre 18 et 28 ans, on change, on évolue, on change de référence. Et petit à petit, ma référence principale, c'est plus devenu Game of Thrones, tu vois. Donc, l'ambiance du roman a un peu changé.
Oui.
Et en fait, oui, autant il y a des écrivains qui écrivent 10 romans avant de vraiment arriver à en faire un abouti. Moi, on va dire que j'ai écrit 10 romans en un. J'ai tellement retravaillé, rechangé ce roman qu'en fait, la version finale n'a rien à voir avec la version de départ. C'est là-dessus que je me suis entraînée, que j'ai fait mes armes. Et en fait, au bout d'un moment, je faisais que retravailler les 30-40 premières pages. Enfin, c'était une catastrophe, j'avançais pas. Je me suis dit, bon, allez, il faut que j'arrive un jour à terminer ce truc. J'ai demandé pour Noël qu'on m'offre Anatomie du scénario de John Truppi. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je prends Anatomie du scénario comme un manuel, vraiment un template à remplir, parce que je sais que tu es très bonne élève. Voilà. Là, au moins, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait que si je prends ces 22 points à la con, là, on voit le rapport amour-haine. Et que je les fais un par un exactement comme il dit, c'est sûr, ça va tenir la route. Et au moins, je suis sûre que je ne m'engage pas dans n'importe quoi. Et donc, j'ai fait ça. Pendant un an, j'ai construit le scénario de ce roman. Sauf que, déjà, il ne faut jamais faire ça. Ce livre n'est pas un manuel à suivre à la lettre. Même lui, il le dit, mais moi, voilà. Et en plus, moi, j'avais 3 personnages points de vue. Donc, j'ai dû suivre la méthode en entier 3 fois. Une fois pour chaque personnage. Et en fait, une 4e fois pour retisser le tout ensemble et faire un tout cohérent. Donc, autant te dire qu'à la fin de l'année, je ne pouvais plus voir ce scénario. Mais je me suis dit, allez, maintenant, j'écris le premier jet. Et là, j'ai à nouveau passé un an à écrire le premier jet de ce scénario, qui, évidemment, s'est détaché du scénario au bout de quelques pages. Donc, en plus, ça n'avait pas servi à grand-chose de tout faire dans les moindres détails. Et voilà, donc 2 ans en tout de travail sur ce roman, je ne peux plus voir ce truc en peinture, je le mets au fond de ma Dropbox, je ne veux plus en entendre parler. Et c'est encore un an après, où là, je n'ai pas du tout retouché ce roman, je l'ai oublié dans les limbes, que je vois passer, je crois que c'était sur Facebook, un post de Folio SF qui va fêter ses 20 ans et qui lance un concours du premier roman d'imaginaire à cette occasion. Et donc, bah, je me dis à ce moment-là, je ne vais clairement pas écrire un roman pour ce concours. Enfin, moi, écrire un roman en 6 mois, je crois que c'était 6 mois après la deadline, c'est juste impossible. Donc, je vais ressortir ce roman que j'ai dans mes tiroirs et sait-on jamais, peut-être qu'il y aura des trucs à en reprendre. Et je le ressors, je le relis, je me dis « Ok, ça va, finalement, ce n'est pas si horrible que ce que c'était dans ma tête. Ce n'est pas si nul que ça. Bon, il va falloir enlever peut-être une grosse moitié, voire les 2/3, refaire toute la fin et tout, mais il y a de la base, il y a une matière à retravailler. » Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc ça, c'était les 5-6 premiers mois, on va dire, de 2020. Et ça tombe bien, entre guillemets, puisque c'était le Covid. J'étais au chômage partiel et donc j'avais plein de temps pour retravailler mon roman. Et je l'ai envoyé, je crois que c'était le 6 mai 2020, à minuit ou à 21h. Je crois que c'était 6 mai 21h, la deadline pour envoyer. Et genre à 20h50, j'ai fait cliquer pour envoyer le roman. Et il était écrit sur la page du concours que le gagnant serait recontacté courant de l'été, non, je crois courant juillet, et que le gagnant serait annoncé publiquement en septembre. Donc j'attends sans trop attendre. En attendant, j'écris le premier jet de mon deuxième roman, justement, pour penser à autre chose. Et puis en plus, je ne l'avais pas tellement envoyé pour gagner, mais plus pour m'obliger à terminer enfin ce roman, à faire un truc abouti au moins une fois dans ma vie. Et voilà, ça me mettait une deadline, ça m'obligeait à faire ça. Et donc, et en plus, voilà, c'était Folio SF, donc c'était là un big truc. Je me suis dit, laisse tomber, c'est plus pour le challenge. Mais quand même, une fois que t'as envoyé, bah forcément, ça te trotte dans la tête. Et juillet passe, je me rappelle très bien, 31 juillet minuit, je me couche et je me dis, ok, c'est pas mon manuscrit qui a remporté le concours. Je retravaille mon manuscrit, je regarde des maisons d'édition à qui je peux l'envoyer, je l'envoie à des bêta-lecteurs, etc. Et puis, en septembre, un jour, je reçois un appel et il faut savoir que je réponds jamais au téléphone quand je sais pas. Déjà, je réponds jamais au téléphone tout court, mais encore moins si c'est un numéro que je connais pas. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai décroché et j'entends « Ah oui, bonjour, c'est Pascal Godbillon, l'éditeur de Folio SF. » Donc là, je me suis assise et voilà, qui m'a annoncé que mon manuscrit avait remporté le concours. La première chose que je lui ai dit, c'est mais je croyais que le gagnant avait été choisi en juillet, que c'était trop tard. Il m'a dit, ah bah, si vous voulez, on a d'autres candidats, hein, c'est pas un problème. Non. Et en fait, ils avaient juste pris beaucoup de retard, voilà. Et donc voilà, comment ça a commencé.
Ok, j'aime beaucoup ton histoire. Je m'y retrouve sur certains points, notamment le fait de planifier pendant trop longtemps, parce que c'est rassurant. Peut-être parce qu'on a ce truc de reculer pour mieux sauter, et si ce n'est pour ne pas sauter, c'est encore mieux. Et moi aussi, John Truby est ma némésis, donc je comprends tout à fait.
Oh, je continue à m'en servir, mais pas du tout de la même manière. Je m'en sers plutôt pour la réécriture, pour vérifier que je n'ai pas oublié des gros trucs, pour m'aider si je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, pour rééquilibrer et tout, mais surtout pas en première intention.
Non, c'est un très bon outil, mais il faut le prendre comme ça, un outil, tout simplement. Mais du coup, toi, tu reçois cet appel, tu t'assois sur ta chaise. Tu lui dis, oui, non, finalement, moi, je veux bien. Est-ce que c'était l'objectif de le publier dès le départ? Est-ce que finalement, toi, tu arrives à quelque chose où c'était le but, tu vois, d'être publié et dans une optique d'en publier d'autres et d'en faire une carrière? Ou est-ce que finalement, toi, ouais, tu me disais que tu l'avais un peu envoyé pour dire de le terminer et ça t'est tombé dessus par hasard. Et là, aujourd'hui, tu sors ton troisième roman et quand tu regardes en arrière, tu fais « c'est bizarre, c'est que des hasards qui m'ont amené là ».
Non, 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 j'ai toujours su, enfin toujours, je ne sais pas, mais depuis très très longtemps, je savais qu'un jour, je serais publiée ou que je voulais en tout cas être publiée. Je ne sais pas, c'est bizarre ce truc quand tu as un rêve qui est tellement fort que tu te dis « ça va forcément arriver », mais en même temps, je sais que je ne maîtrise pas ça et que s'il faut, ça n'arrivera jamais. Je ne sais pas si tu vois ce truc, qui est très très frustrant d'ailleurs et très douloureux même quand tu aspires tellement à quelque chose que tu ne contrôles pas. Mais non, avant ça, c'était pas tout à fait ma toute première publication. J'avais déjà eu une nouvelle publiée dans un recueil chez Buchet-Chastel dans le cadre du prix du jeune écrivain. J'avais aussi quelques poèmes publiés dans le cadre d'ateliers à la Sorbonne, etc. Donc ça faisait très longtemps que j'écrivais et que j'aspirais à ça. Donc c'était pas un hasard. Après ce roman-là, au moment où je l'ai repris, je pensais pas qu'il serait publié ou publiable. C'est juste qu'une fois que je l'avais retravaillé et que j'étais arrivée à quelque chose qui me semblait assez abouti, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ce serait trop bête de ne pas tenter jusqu'au bout. Et puis, en même temps, ça me paraissait normal si ce roman-là n'était jamais publié parce que c'était le premier.
Je comprends, je comprends. Mais ce qui m'amène à ma deuxième question, je crois que c'est la peur de beaucoup d'écrivains lents, donc qui mettent, comme toi, 10 ans à sortir leur premier roman, ou en vrai, ce n'était pas leur premier roman, parce qu'en vrai, comme tu dis, il a été réécrit de nombreuses fois. Mais voilà, 10 ans à fournir un travail terminé. Et là, maintenant, on se dit, OK, on en écrit un deuxième.
Ouais.
Est-ce qu'on remet 10 ans? Qu'est-ce qu'on se passe? C'est un peu la terreur de beaucoup d'écrivains lents, je pense. Qu'est-ce que ça a été, toi, de ton côté, comme expérience? Parce qu'il a été publié 2 ans après, si je ne dis pas de bêtises, du coup, 2021 et 2023. Voilà, raconte-nous un petit peu ce passage. En plus, on change de genre, on est toujours dans l'imaginaire, mais on part sur quelque chose de totalement différent. Finalement, comment ça s'est produit?
Je pense que, en tout cas, moi, ma première expérience de ce premier roman a été aussi un peu douloureuse, quoi. Comme je disais, ça ne s'est pas sorti tout seul, ce n'était pas 10 ans où je me suis éclatée, c'était 10 ans de lutte contre moi-même et j'ai galéré, quoi. Et je pense que pour le deuxième, je ne voulais surtout pas retomber dans les mêmes écueils. Je pense que quand on passe vraiment 10 ans, c'est très long, quoi, et que je pense qu'à un moment on se dit je veux plus faire ça, je peux plus voir cette histoire. Enfin, je l'aime, j'en suis fière et tout, mais je veux passer à autre chose, quoi. Et donc c'est pour ça que dès que j'ai envoyé le roman au concours, j'ai tout de suite écrit le premier jet du suivant, parce qu'aussi en attendant, il y a d'autres idées qui nous viennent. Enfin, je sais pas comment fonctionnent les autres, mais en général, même si on travaille sur un seul roman, on a en fond de tâche d'autres idées de romans qu'on note par-ci par-là. Et voilà, l'idée de mon deuxième roman m'était arrivée, je pense, 1 an plus tôt, voire plus. Et je l'avais notée dans un coin et je me prenais des notes. Et je laissais monter le désir, en fait, de cette nouvelle histoire pour que le jour où je me mettrais à l'écrire, elle sorte. Pas toute seule, ça a encore mis du temps derrière. Mais en plus, je pense que j'ai dû mettre 2 ans à l'écrire vraiment. Mais plus 1 an et demi de réflexion avant, entre l'idée et le rendu du manuscrit, on va dire, il s'est passé peut-être 3 ans et demi, ce qui est quand même long en soi. Je ne suis pas une écrivaine rapide de toute façon. Et après, je pense qu'il n'y a pas de complexe à avoir à être un écrivain lent. C'est une autre manière de travailler. Je pense qu'un premier roman, c'est particulier aussi. On a tellement peur, enfin moi en tout cas, j'avais tellement peur de mal faire et que j'ai pris trop de temps sur des choses qui n'en valaient pas la peine, de tout planifier dans les moindres détails de A à Z. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, puisque l'écriture, elle vient de toute façon faire exploser ton scénario en vol. Ça, c'est quasi sûr. Moi, en tout cas, c'est le cas quand j'écris. Donc maintenant, je travaille différemment.
Et quand on précise un petit peu, quand on parle d'écrivain ou d'écrivaine lent ou lente, on ne parle pas de vitesse de tape sur le clavier, hein. Mais parce qu'on peut être très lent dans la réflexion et très rapide à l'écriture elle-même. C'est juste qu'il y a besoin de beaucoup de temps, de mise en recul, de mise en abîme, de réflexion. En fait, on écrit pas, on ne peut pas écrire 5000 mots par jour tous les jours et ça marche pas, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça. Ça dépend, je pense, aussi du type de projet qu'on écrit. Pour mon premier roman, c'est juste que, voilà, encore une fois, j'avais peur de mal faire et que je me prenais beaucoup trop la tête sur des trucs qui n'en valaient pas forcément la peine et que j'avais cette paralysie du perfectionnisme qu'ont beaucoup de jeunes écrivains, je pense, ou d'écrivains tout court d'ailleurs, qui essayent de produire un premier roman et qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as vu le film L'anatomie d'une chute.
Non, pas encore.
Je l'ai lu une semaine, du coup, une fois qu'il avait eu les Césars. C'est le problème du mari de la protagoniste, en fait. Elle, c'est une écrivaine, et lui, il voudrait écrire. Mais dans une scène de dispute, elle lui balance comme ça. En fait, tu n'arrives pas à écrire, tu dis que c'est de ma faute parce que moi, j'écris, que je te laisse pas le temps. Mais en fait, c'est parce que toi, ton égo, comment elle le formule ? Je crois qu'elle lui dit, ton égo fait exploser ton cerveau avant même que tu aies pu avoir l'embryon d'une idée. Et je me suis tellement reconnue là-dedans, de cette paralysie du perfectionnisme qui fait que, en fait, c'est ton égo. C'est-à-dire que tu sors quelque chose sur le papier qui n'est pas à la hauteur de ce que tu avais dans la tête. Et ça fait tellement mal de voir ce texte pourri et de te dire, c'est moi qui fais ça. Il y a un espèce d'énorme décalage entre ce que tu voudrais être capable de faire et ce que tu es vraiment capable de faire. Et ça m'a pris du temps de passer par-dessus ça et de me dire, ok, vas-y, sors, même si c'est merdique, même si c'est nul, sors-le. Et après, tu le retravailleras. Je pense que c'est vraiment ce cap-là qui a accentué ma lenteur sur le premier roman, ce qui n'empêche pas que je reste une écrivaine lente et que j'ai besoin, comme tu dis, de beaucoup de réflexion. Maintenant, sur mes nouveaux projets, je suis plus tant dans le, comment dire, dans une espèce de pragmatisme où je fais bien mon scénario et tout. J'essaie de beaucoup plus me laisser guider par mon inconscient. Qu'est-ce qu'au fond de moi, j'ai envie de raconter ? Et forcément, ben, ça prend du temps d'aller creuser tout ça. On ne peut pas juste se mettre à son ordi et écrire. Enfin, on peut si on fait de l'écriture automatique, mais ce n'est pas mon cas.
Je comprends tout à fait. Pourtant, je planifie beaucoup, mais je pense qu'il y a une grosse, grosse part d'intuition où parfois, en fait, les questions, elles mettent du temps à émerger. Comme si elles étaient au fond de notre estomac et qu'il leur fallait du temps pour monter au cerveau. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais que ça vient vraiment du profond de nous et que ça peut pas être en une séance de brainstorming en une après-midi que ça vient. En fait, c'est juste quelque chose qui met parfois des semaines ou des mois d'un coup popé dans notre tête en disant « Ah oui, ça pourrait être pas mal aussi ».
Ouais, c'est ça. Après, j'essaye, c'est quelque chose que je fais même en ce moment, d'aller chercher ça, parce que si juste tu restes là à attendre que ton inconscient fasse le boulot et t'envoie les idées, ça n'arrive jamais, quoi. Donc, de quand même prendre le temps de se poser pour aller creuser, discuter, un peu titiller cet inconscient-là et être attentif à se dire, quand les idées me viennent, justement, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Je sais à peu près ce que je veux écrire, et ben, je vais être attentive à ce qui se passe autour de moi, ce qui peut m'inspirer, ce qui va entrer en résonance avec mes idées de base pour arriver à concrétiser cette inconscience. C'est hyper fou ce que je raconte, mais si vous êtes comme moi, vous le reconnaîtrez peut-être.
moi, je m'y reconnais en tout cas et je comprends ce que tu veux dire. Donc, on arrive sur ce deuxième roman, Lutter pour des fantômes, où tu t'es éloignée de la fantaisie pour du réalisme magique. Est-ce que tu peux déjà expliquer en quoi consiste le genre pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas ou en tout cas qui en aurait lu, mais sans savoir que ça s'appelait comme ça.
Alors, le réalisme magique, bon, je ne suis pas du tout chercheuse en littérature, donc je sais que c'est une définition qui est très vaste, très changeante et tout, mais bon, je vais dire un truc un peu plus pragmatique. Le réalisme magique, c'est, en gros, quand on a une situation, un environnement réel, réaliste, avec du surnaturel qui intervient, mais sans que ce soit une surprise pour personne. Donc, ce n'est pas de la fantaisie, par exemple, où bah, Harry Potter, d'un coup, on dit « t'es un sorcier », il dit « quoi ? Mais les sorciers, ça existe, incroyable !» Et voilà, c'est de la fantaisie, on part dans le merveilleux. Ce n'est pas du fantastique où le héros, il voit du surnaturel et il est choqué et il ne sait pas s'il est fou ou si c'est la réalité. C'est vraiment normal pour tout le monde. Le roman, en général, qu'on cite quand on parle de réalisme magique, c'est « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Et c'est un genre qui a notamment énormément fleuri en Amérique du Sud. Donc, on en a beaucoup, voilà, en Colombie, Brésil, etc. Et voilà, je ne sais pas trop ce que je peux te dire de plus.
c'est une bonne définition. Et du coup, dans ce roman, tu mets en avant et tu mets en lumière Nice et ses contes fantastiques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de faire ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé à raconter cette histoire de ces deux sœurs, de ces deux sorcières nées dans les vallées de Nice, avec en plus un narrateur très particulier ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?
Alors, pour le coup, c'était complètement différent de mon premier roman, où voilà, j'ai beaucoup cherché ce que je voulais mettre dedans et tout. Là, ça m'est venu tout seul, dans le sens où ça m'est tombé dessus, en fait. Je lisais dans le cadre de mon boulot, j'étais rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Lecture Jeune, où l'idée, c'était de faire des dossiers un peu de recherche sur l'adolescence, la culture adolescente, la littérature adolescente, etc. À destination de bibliothécaires et de profs et tout. Et on faisait un dossier sur les ados et leurs parents. Et dans ce cadre-là, je lisais le livre d'un psychologue brésilien, franco-brésilien, et je tombe sur un poème qu'il cite en fait pour parler de la manière dont on fait la paix avec les secrets de famille ou avec ses parents, en fait, avec juste les non-dits des différentes générations. Et ce poème, c'est le poème d'un auteur pas brésilien aussi, je crois, Mario Quintana, se termine par « Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes ». Et en fait, ce vers m'a complètement frappée. Je me rappelle encore, j'étais assise à mon bureau au boulot. Et vraiment, j'en suis restée complètement couette. Ça m'a... Et ensuite, ce vers... Enfin, j'ai tout de suite eu les images, en fait. Le thé, les fantômes, la table. Je voyais exactement la scène. Je ne sais pas, ça a dû entrer en résonance, en fait, avec beaucoup de choses en moi, même si sur le coup, c'est juste le côté esthétique qui m'a parlé. Et voilà, cette image-là, ce vers-là m'a hantée pendant des semaines, alors que j'étais encore donc, dans l'écriture du précédent. Et je me suis dit, OK, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en écrive une histoire. Et au début, bah, j'ai écrit voilà, une histoire de fantôme, de thé, c'était un peu rigolo. Plus voilà, sur cette résonance esthétique, je trouvais ça trop stylé. Mais il manquait du contenu, en fait. Il manquait un thème plus profond à cette histoire. Et petit à petit, ben voilà, sont arrivés les personnages des deux sœurs et arrivé le personnage de la mère et ses relations très toxiques au sein de la famille. Et petit à petit, le roman a pris de la consistance. Et c'est que beaucoup plus tard que je me suis rappelée dans quel cadre j'avais lu ce vers. Dans le cadre d'un livre qui parlait de relations parents-enfants. Mais moi, j'avais complètement oblitéré ça pendant très longtemps. Et je pense que le genre du réalisme magique, finalement, il était aussi en germe dans ce vers, puisque bah, ça vient d'un poète brésilien et que ça parle de quelque chose de très intime, de relations familiales, en intégrant un tout petit peu de surréalisme avec le fantôme. C'est très caractéristique en fait du réalisme magique. Et tout ça, je ne l'avais pas du tout capté en fait. Quand j'ai lu ce vers et que j'ai commencé à écrire mon histoire, je voyais que le thé, les fantômes, mais en fait, il y avait derrière les relations familiales, l'inconscient, les non-dits, de génération en génération, il y avait le réalisme magique. Et tout ça, au lieu de me dire dès le début, ah ben c'est très simple, il y a tout ça dedans, je vais l'écrire. J'ai dû le découvrir petit à petit et c'est là que je parle d'inconscience et que je pense que si ce vers m'a autant frappé, c'est parce qu'en fait ça faisait écho à beaucoup beaucoup de choses en moi dont j'avais pas conscience sur le moment.
C'est beau, un livre sur l'inconscience qui a été écrit inconsciemment et des vers inconscients. C'est une belle mise en abîme. J'aime beaucoup.
Ouais. Et oui, finalement le process a été assez cohérent avec le contenu. Et puis, comme ça parlait beaucoup de famille et que c'était aussi dans un cadre réaliste, au tout début, je pensais le placer à Paris, parce que c'est là que j'habitais à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, mais ça n'a pas trop de sens là d'où toi tu viens, là où sont tes racines, et justement d'où est ta famille, les paysages avec lesquels tu es le plus intime, c'est les paysages du sud de la France. Moi, je suis née à Grasse, j'ai grandi à Antibes, j'ai fait mes études à Nice. Et voilà, donc je me suis dit, mais oui, c'est évident, il faut que tu déplaces le récit là-bas. Et ça a encore plus pris, je pense, de profondeur à ce moment-là.
Et alors nous, en tant que lecteurs ou en tant que lectrices, on est un touriste qui décide de visiter le sud de la France et qui se prend une pluie torrentielle et se réfugie dans un café. On est accueilli par un drôle de personnage qui a une histoire à nous raconter et qui nous dit « Regarde la dame là qui est là-bas, c'est une sorcière ». Et j'ai tout de suite été happée par ces premières lignes, par cette voix narratrice hyper particulière qui compte cette histoire. Comment as-tu trouvé cette voix et cette forme, parce que c'est une forme de prose aussi, le roman est écrit vraiment d'une façon qui est très particulière. Et est-ce que pour toi la forme comptait autant que le fond pour ce livre?
Alors au final oui, mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite, ça n'a pas démarré comme ça. Comme je disais, j'ai beaucoup cherché en fait ce que racontait vraiment ce roman, donc j'ai beaucoup écrit de petits fragments un peu détachés les uns des autres, avant de trouver justement l'histoire qui allait tous les relier ensemble, et la voix en faisait partie. Mais je me suis d'abord demandé comment justement j'allais les relier, et j'ai même à un moment envisagé quelque chose de totalement inverse, donc pas du tout une oralité, un conteur, quelqu'un qui vient te prendre par la main et t'expliquer les choses, mais un rapport écrit. Et d'ailleurs, on en a des petites traces dans le roman, on a des extraits de ce rapport, puisque le narrateur est en fait un archiviste qui doit enquêter sur la désertion d'un village abandonné. Pourquoi les gens sont partis d'un coup? Et en plus, j'avais lu à ce moment-là un roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle Âge tendre. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Pas encore, mais j'y compte bien.
Et ce roman est entièrement écrit comme un rapport de stage. En fait, on lit le rapport de stage d'un collégien. Et je trouvais ça génial parce que ça crée un humour hyper savoureux dans le contraste entre la naïveté du gamin qui découvre des trucs et le ton très formel qu'il croit devoir donner à son rapport. Donc j'avais fait des essais comme ça, mais ça ne fonctionnait pas, ce n'est quelque chose de trop rigide. Et puis j'avais aussi des passages qui ne me semblaient pas du tout harmonieux entre des passages très écrits, très poétiques, presque lyriques, et d'autres passages hyper oraux, familiers, voire vulgaires. Je me disais, mais comment je vais réussir à mettre tout ça ensemble? Ça ne va pas, on va avoir l'impression qu'il y a deux romans qui coexistent sans se fusionner. Et puis, alors je ne saurais pas te dire comment, mais j'ai trouvé ce jeu, ce narrateur qui prend la parole à la première personne et qui raconte l'histoire. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je tiens quelque chose. Et j'adore ce genre de narration. En fait, je sais même plus si ça m'est venu tout seul ou si c'était une réflexion consciente, mais je sais que j'ai toujours aimé, par exemple, Les Orphelins Baudelaire, les Moni Snicket, comment pareil, il te prend par la main au début, il s'y adresse directement au lecteur pour lui expliquer que surtout, il ne faut pas lire ce livre et qu'il est toujours temps de faire demi-tour, de refermer le livre. Et je sais pas, c'est le genre de narration, moi, qui me réjouit profondément quand je lis ça, avec des narrateurs très présents, un peu à la Roald Dahl, tu vois, où le narrateur n'hésite pas à prendre la parole. Ou encore, voilà, Clémentine Beauvais, que je citais, c'est ce qu'elle fait aussi beaucoup dans ses romans.
Oui, dans, effectivement, Songe à la douceur, on ne l'aperçoit pas tout de suite, mais la narratrice est bien là derrière pour taper les personnages. J'ai pu en discuter avec elle dans un épisode il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est passionnant, parce que beaucoup de jeunes écrivains ne pensent qu'au fond et se disent que la forme, c'est de faire de jolies phrases, alors que la forme peut justement prendre de multiples formes, et c'est ça qui est incroyable.
Oui, là, en l'occurrence, je pense que quand on a un narrateur qui est fort, ça amène une autre dimension à l'histoire. Ce n'est pas juste ça la saupoudre de littérarité, c'est qu'on rentre d'une manière différente dans l'histoire, on voit les personnages d'une manière différente. Ça permet aussi de donner des informations ou pas, ou justement d'en retenir et donc de ménager des révélations plus tard. Donc, c'est une manière de faire, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé.
Et en termes de prose, comment tu pourrais conseiller à quelqu'un d'écrire un roman en prose, ce que toi, t'as appris ce roman-là?
Qu'est-ce que tu veux dire par roman en prose?
Pour moi, c'est marrant, mais alors peut-être que tu ne l'as pas écrit intentionnellement, mais je trouve que ton roman sonne comme un roman en prose. C'est très, très poétique à lire.
Comme un poème en prose, tu veux dire?
Oui, plutôt comme ça.
C'est conscient, dans le sens où c'est très oral déjà. Donc, comme je l'ai dit, il y a un narrateur vraiment qui prend la parole dans un salon de thé, qui te parle à toi, lecteur. Et donc, il fallait que ça sonne comme une voix qui te parle et pas comme quelque chose d'écrit. Même si parfois, on va avoir des petits extraits de documents écrits où il va lui-même, comme un conteur, laisser la parole à d'autres personnages qui va comme interpréter. On se balade comme ça de voix en voix. Mais voilà, déjà, il fallait que ça soit vraiment oral et que ça sonne bien, naturel, comme une vraie voix. Et puis, il y a ce côté où... alors ça, c'est peut-être un peu obsessionnel de ma part et je me suis un peu pas pris la tête avec mon éditeur, mais on a un petit peu discuté de points comme ça, où quand je le lis à voix haute, il faut que ça, qu'il y ait une musique et qu'il y ait un rythme. Et que même les phrases, parce qu'il y a des parties donc, qui sont effectivement en vers libre, donc pour le coup, l'aspect poétique ressort vraiment physiquement sur la page, mais parfois, non, c'est juste de la prose. Mais je voulais quand même que dans les passages en prose, dans la plupart en tout cas, on entende une musique, un rythme, et par exemple, voilà, qu'il y ait des phrases avec 8 pieds, 12 pieds, 10 pieds, que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que le rythme, on l'ait quand on lit. Avec, voilà, donc c'est vrai que les muets, des fois, ils me changeaient un mot en un autre parce qu'il y avait une répétition. Je dis oui, mais là, du coup, on perd une syllabe, ça marche plus. Alors qu'il n'y a que moi dans ma tête qui le lis comme ça. Mais en attendant, je pense que malgré tout, comme tu dis, ça se ressent un petit peu à la lecture.
Ça se ressent, oui.
Bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Par contre, c'est pour ça que je n'ai pas pu et que je ne peux toujours pas écouter la version audio du roman. Alors que je sais qu'elle est géniale. C'est Clotilde Seille qui a fait le livre audio. C'est la lectrice de La Passe-Miroir. Et pour avoir juste écouté un tout petit extrait du début, elle a vraiment une voix très particulière qui se prête vraiment très bien à la lecture. Et beaucoup de lecteurs qui l'ont lu en audio ont adoré, mais moi, je ne peux pas. Parce que forcément, elle ne va pas mettre toutes les petites syllabes là où moi, je veux qu'elles soient mises. Et c'est insupportable pour moi.
Et tu n'as pas pu assister à l'enregistrement pour lui en parler?
Alors, en l'occurrence, elle est au Canada.
Ah, donc effectivement.
D'accord. Mais rassurez-vous, il n'y a pas l'accent québécois. Je dis rassurez-vous parce que sinon, ce serait un vrai décalage avec le roman.
Ah là, c'est sûr qu'un conteur niçois qui parle avec l'accent québécois, ça pourrait être très original. Mais... Ok, non, intéressant. J'imagine effectivement que si toi t'entends une musique et que tu entends une autre musique quand tu l'écoutes, ça doit faire une dissonance dans ton cerveau.
Oui, puis même, je sais pas toi, mais quand t'écris, t'as une voix dedans qui te raconte l'histoire. Enfin, moi, j'ai une voix. Je sais que, par exemple, quand je lisais le roman à voix haute à mon mari à la fin pour faire un peu le gueuloir, quoi, comme le faisait Flaubert, il se foutait trop de ma gueule parce qu'il me disait que je prenais une voix un peu stylée, une espèce de posture pour raconter mon roman. Mais en même temps, c'est un peu la voix que j'entendais dans ma tête avec un certain ton, une certaine manière de moduler les phrases. Et forcément, dès qu'on le lit à voix haute, même si moi-même je le lis à voix haute, ça ne fait pas exactement ce que j'ai dans la tête.
Moi, j'entends pas de voix. Par contre, je vois tout. C'est pas la, c'est, moi, c'est tout est dans la vision. Et je suis au milieu de mes personnages. Et donc, je n'entends pas leur voix. Ce qui est assez amusant, du coup. Mais je comprends ce que tu veux dire, même si je ne le vis pas comme ça.
C'est intéressant parce que pour le coup, moi, je vois pas grand-chose.
Ouais, c'est
Je
marrant.
vois pas les visages, par exemple, précis de mes personnages. Il y a plein de décors qui sont flous. Je vois pas non plus comment dire, le chemin entre les différents décors. J'en vois une pièce, j'en vois une autre, mais le reste de la maison, je sais pas comment on va de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, ça crée parfois des grosses incohérences dans le roman.
Ouais, alors que moi, je pourrais tout dessiner si j'en
Ah
avais le
ouais?
talent. J'en ai
Ah,
pas.
tu sais que tu en as le talent.
Non, pas à ce point-là. Clairement pas. J'apprends, mais c'est assez amusant. Et d'ailleurs, quand je ne visualise pas une scène, c'est qu'elle est mal écrite.
Ah.
Dans mon cas, et c'est que c'est, si je n'arrive pas à visualiser ce que je suis en train d'écrire, c'est que je me trompe. Donc,
OK.
si toi, j'imagine que quand tu écris, tu n'entends pas la voix, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est que ça ne marche pas.
Totalement.
C'est que
Et
la
là,
voix
je
l'a
suis.
fait. Non, ça, c'est pas
Ouais,
bon. Je
c'est pas
raconterai
là
pas
qu'il faut
ça.
aller. Ouais, exactement, mais c'est grave ça, t'as trop raison. Et je pense que le fait que le roman soit venu d'une phrase, ça a déjà donné un ton. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vraiment, encore une fois, tout était en germe dans cette phrase. Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes, ça fait un alexandrin. Il y a tout dedans, il y a déjà un rythme. Et ouais, là, je suis en train d'essayer de trouver une manière de raconter une histoire, une nouvelle histoire, et je n'ai pas la voix, et je n'arrive pas, je ne sais pas encore exactement ce que je veux raconter parce que je n'ai pas la voix. Et tu as trop raison. Là, tu me souviens de me faire réaliser un truc.
Très heureuse de t'avoir fait réaliser quelque chose. Je pense que ta voix et toi n'êtes pas encore en accord avec ce que je
Tout à
viens d'aller
fait.
en décrire, ou en
Il
tout
va
cas
falloir qu'on ait
peut-être
une
sur la forme.
discussion.
Oui,
Ouais.
peut-être. Peut-être que là, elle boude dans un coin de ton cerveau en disant, mais je ne raconterai pas ça, c'est hors
Non,
de question.
mais c'est trop ça. Et ouais, je me rends compte que les textes que j'ai le plus de facilité à écrire, c'est ceux qui sont venus d'une phrase, en fait. J'avais écrit une autre nouvelle, une nouvelle dans un recueil pour ActuSF. Et ça m'était venu d'une phrase aussi, une phrase qui m'était tombée dessus. Alors, pour le coup, de mon propre cerveau, on va savoir comment. Je me rappelle très bien, j'étais en vacances en Corse. D'un coup, je pense, il fallut 100 ans à Anna pour trouver l'entrée de la tour. Les choses sont venues comme ça l'une après l'autre. Je dis, OK, je ne sais pas pourquoi 100 ans, je ne sais pas qui est Anna, je ne sais pas ce que c'est cette tour, mais je vais écrire cette histoire. Et ouais, moi, quand ça vient d'une phrase, ça vient plus facilement. Et là, peut-être c'est pour ça aussi, ma nouvelle histoire, tu vois, ça vient plus d'un moment que j'ai vécu, d'un lieu, d'un château sous la neige en Irlande. C'était le moment le plus mystique de ma vie. Mais il n'y a pas de voix derrière, il y a juste une ambiance. Et je crois que du coup, c'est ça qui fait que j'ai du mal à raconter cette histoire pour
Alors que
l'instant.
moi, à l'inverse, j'ai les ambiances en premier
Ouais.
lieu. Je vois tout, j'ai les odeurs, j'ai les bruits, je vois mes personnages agir et vivre le début de leur vie, en tout cas leur vie en statu quo avant que l'histoire démarre. Et j'ai plein d'univers comme ça dans ma tête où je ne sais pas encore ce qui s'y passe, mais je les vois et je les sens. Et je les sens en termes d'odeur et je les entends et c'est assez amusant, du coup.
Alors, du coup, ça m'intéresse. Comment tu passes de j'ai cette ambiance? Parce que moi, là, c'est ça. J'ai ce château, j'ai la neige, j'ai même des personnages, j'ai exactement ce que tu décris. Mais comment je les sors du statu quo? Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à un moment? Là, je galère. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, quoi?
Bah, alors souvent, ça m'oblige à prendre un pas de recul et à réfléchir à comment fonctionne soit l'univers, soit comment fonctionne le personnage, qui est cette personne que je vois, quels sont ses problèmes et comment l'univers et ce personnage peuvent d'un coup rentrer en conflit. En fait, c'est marrant parce que pour Absolu, je l'ai pas eu comme ça. J'ai d'abord eu une idée, le pitch. Et en fait, dès que j'ai eu le pitch en tête, j'ai eu l'univers, mais du coup, j'avais le pitch juste avant d'avoir l'univers, donc c'était plus facile. Pour les autres univers que j'ai en tête, j'ai d'abord eu le visuel et je me fais des playlists et j'écoute beaucoup. Et quand je conduis, je mets ça et je pars à moitié, c'est pas très bien d'ailleurs. Il faut être concentré quand on conduit. Et j'essaye de mettre en relation ce que je vois avec un problème. avec un élément déclencheur et après ça peut partir. Mais je comprends le fait de, en fait, ça pourrait vivre éternellement en statu quo dans notre tête, en fait.
C'est ça. Et d'ailleurs, on se disait avec mes amies écrivaines que des fois, on aimerait bien juste écrire des atmosphères et qu'on doit en fait se taper d'imaginer des personnages, des intrigues, des problèmes et tout, juste pour pouvoir écrire dans un monde qu'on kiffe. C'est très frustrant.
Je comprends bien. Mais après, il y a des passages d'intrigue et tout qui sont chouettes et les personnages, on finit par les aimer de tout notre cœur. Mais on est d'accord que des fois, on aimerait juste s'allonger au milieu de l'atmosphère qu'on a imaginée et juste dormir. Là.
C'est ça. Puis bouger. Et mauvais roman.
Oui, vraiment, ne lisez pas ça. Du coup, on va peut-être passer sur le troisième. C'est assez amusant parce que tu as gardé le côté thé, puisqu'on parle de Porcelaine sous les ruines. Un nouveau roman sorti sous un autre nom, Ada Vivalda, qui est une romantaisie. On va continuer sur le simple fait d'abord cette question avant de passer sur toute la question nom de plume et tout ça. Comment était venue cette histoire et pourquoi tu décidais d'écrire du coup ce nom sous un nom de plume? Et moi personnellement, je me souviens très bien la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était aux Imaginales justement. Tu étais en table ronde et d'un coup d'un seul, tu as lâché une bombe. Tu as dit aux gens dans la salle, non mais moi je vais écrire une romantaisie et tout ça. Et là, tu as tous les gens autour de moi qui ont fait, oh, je veux lire. Et c'était très très drôle.
Je me rappelle pas du tout.
Moi, je m'en souviens bien, écoute.
Alors, comment cette idée m'est venue? C'est un peu particulier, c'est différent des deux romans précédents, d'où aussi le changement de pseudo. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai eu une idée, qui l'ai écrite et qui ensuite l'ai proposée à mon éditeur. C'est mon éditeur qui est venu me voir en me disant, puisque oui, donc, juste parenthèse, c'est le même éditeur sur mes deux premiers livres. C'est deux maisons différentes, mais en fait, c'est toujours la même personne derrière. Puisque donc, Pascal Godbillon, il est directeur éditorial de Folio SF en poche et de la collection Lune d'encre chez De Noël en grand format. Donc, quand j'avais bossé avec lui sur le premier roman, il m'avait dit « si t'as quelque chose, envoie-le-moi ». J'ai envoyé mon deuxième roman et il est passé donc en grand format chez Lune d'encre de Noël. Et s'il passe en poche un jour, ce sera chez Folio SF. Et donc, ce cher Pascal, on lui a demandé de créer une collection de romantaisie dans le même groupe éditorial. Et donc, il fallait qu'il achète des textes à l'étranger. J'ai d'ailleurs lu des textes étrangers pour lui, je lui ai fait des fiches et tout. Et il a d'ailleurs acheté un roman pour lequel j'avais fait une fiche, un roman australien donc, que je traduis, qui va sortir là le 11 avril. Mais je suis trop contente, ça faisait... En fait, j'ai toujours voulu être traductrice, mais la vie a fait que je n'ai pas pu. Et donc voilà, première traduction, ça s'appelle Glace. C'est le premier tome de la trilogie des Glaces de Stacey McEwan. Ça sort le 11 avril chez Olympe. Et il me dit, voilà, je dois acheter des textes, mais est-ce que par hasard, ça te dirait aussi d'écrire dans cette collection? Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais à fond dans les Bridgerton. Mais alors à fond, je voulais écrire une fanfiction des Bridgerton anonyme que j'aurais mise sur Wattpad.
Avec quel personnage?
Alors le tome 2, enfin la saison 2, donc Kate et Anthony, obviously. Et j'aurais mis ça voilà, sur Wattpad en anonyme. Et en parallèle, j'avais une idée de fantasy. Que j'avais eu une nuit, je faisais une espèce de nuit blanche, je faisais que des rêves où je me réveillais et tout. Et j'ai vu dans un espèce de rêve éveillé une panthère blanche qui marchait sur la neige dans un environnement tout blanc. Et je m'étais dit, tiens, ça, c'est une image qui m'a un peu frappée. Tiens, ce serait marrant d'écrire un truc sur une divinité qui contrôle tout ce qui est blanc et qui s'incarne dans cette panthère blanche et tout. Et donc j'avais ces deux projets et je ne savais pas trop lequel mettre en priorité, lequel écrire en premier. Et quand Pascal, mon éditeur, vient me voir avec ce projet, je me dis, ben, ok, je vais prendre mon idée de fanfiction, mon idée de fantasy, je vais les mélanger et ça va faire une romantasy. Et là, il me dit, par contre, j'en ai besoin pour, en gros, dans 6 mois.
La panique.
À peine. Non, allez, on va dire dans 1 an. Et donc, j'ai dû l'écrire super, super vite par rapport aux deux précédents. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait déjà en moi et autour de moi. J'habitais en Irlande à ce moment-là. Et donc, j'ai pris les paysages irlandais, j'ai pris le château irlandais où j'allais souvent écrire. Il y avait un salon de thé, c'était trop stylé. J'ai pris la musique irlandaise, parce que j'allais toutes les semaines dans un pub de village avec mon petit tambour et avec les vieux qui jouaient du violon, et c'était incroyable. J'ai pris Voilà, j'ai pris tout ce qu'il y avait comme ça dans mes inspirations très directes pour écrire ce roman que j'ai été obligée de sortir plus vite. Et c'était un challenge qui était aussi très formateur parce que je me suis rendu compte que j'en étais capable, que je n'étais pas juste une écrivaine lente de manière voilà, inexorable et que c'était comme ça de toute façon. J'ai écrit en, je dirais, en 8 mois. Même si, encore une fois, finalement, il y a eu de la réflexion avant, puisque cette idée de fantasy, je l'avais déjà. Mon idée de romance, je l'avais déjà un petit peu aussi. Mais d'écriture, vraiment, voilà, je l'ai écrit en 8 mois. Ce qui reste long par rapport à des écrivains qui écrivent leur roman en 1 mois ou 2. Et voilà comment l'idée m'est venue à la base.
D'accord. Et d'un coup, tu décides aussi de changer de nom, de t'appeler Ada Vivalda. Et pourquoi se décider de changer de nom pour ce roman-ci? Est-ce que c'est un nom que tu vas garder pour tous tes genres plus romantiques, puisqu'on parle de fantasy mais avec de la romance? Ou est-ce que c'est un nom qui est porté aussi à porter d'autres genres? Je suis un peu curieuse là-dessus.
Alors, la stratégie n'est pas du tout au point, donc je ne sais pas pour l'avenir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai changé de nom pour ce troisième roman, parce que dans les 2 premiers, il y a vraiment 0% de romance. Même pas un petit bout éventuellement à l'horizon suggéré. Non, rien du tout. C'est pas le sujet. Alors que là, la romance, elle est au cœur du récit. C'est la colonne vertébrale de l'histoire. Donc, c'est déjà quand même un genre très différent, même si on reste dans l'imaginaire. Et c'est aussi, souvent, bien que moins que ce que je pensais, un public différent. C'est-à-dire que dans ma tête, je m'étais dit, en fait, les personnes qui ont lu et aimé mes 2 premiers ne liront pas et n'aimeront pas Porcelaine sous les ruines, puisque c'est autre chose. Or, je me suis royalement plantée, puisque de manière assez étonnante et géniale, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais parce que c'est toi qui l'as écrit, je vais quand même lire Porcelaine sous les ruines. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a quand même aussi plein de nouveaux lecteurs et surtout de nouvelles lectrices qui viennent vers mes romans par ce biais-là, par Ada Vivalda, et qui, je pense, n'auront pas envie de lire mes 2 romans précédents, justement parce qu'il n'y a pas de romance. Je veux dire, le lectorat de la romantasy, c'est quand même un lectorat qui est particulier, qui est en grande partie en fait composé aussi de lecteurs de fantasy, mais aussi de lectrices de juste romance, et qui sont là pour la romance essentiellement, et s'il n'y en avait pas, elles ne voudraient pas le lire. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais changé de pseudo, parce qu'aussi souvent, ce n'est pas les mêmes rayons en librairie. C'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent. Parce que aussi, il faut le dire, la romance, la romantasy souffre malheureusement d'une réputation qui n'est pas forcément hyper, comment dire, légitime auprès de beaucoup de professionnels, de représentants, de libraires, etc. Et donc, on avait quand même peur avec mon éditeur, enfin peur. En tout cas, on se disait que peut-être que plein de gens se diraient, après Du thé pour les fantômes, qui a très bien marché, qui est traduit dans des pays en littérature générale, voilà, qui est nominée pour des prix et tout, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec de la romantasy, quoi? Et donc voilà, on a choisi de changer de pseudo pour dire en gros, vous inquiétez pas, elle continue à faire des trucs légitimes, littérature et tout, elle va s'amuser avec la romantasy, et c'est vrai que je me suis éclatée. Mais en soi, s'il n'y avait pas du tout de problème de légitimité sur la romantasy, je pense que j'aurais pu garder quand même malgré tout le même pseudo. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il a fallu que je change, donc que d'un point de vue, on va dire marketing, à côté. Et le troisième point, c'est que c'était, comme je l'expliquais, pas tout à fait la même démarche. Je ne l'ai pas vécu pareil, l'écriture du roman. Ce n'était pas des choses qui venaient, de moi, de mon inconscient, de mes références, etc. et que j'ai apporté, proposé à un éditeur. La démarche était inverse, c'est lui qui est venu avec une idée. En tout cas, moi, j'avais carte blanche totale, hein, mais en tout cas, qui m'a imposé un genre dans lequel il fallait que je m'inscrive. Et ensuite, j'ai dû mettre un maximum de moi et de mes inspirations et de mon authenticité dedans. Donc, ça me ressemble aussi, j'en suis très fière, mais c'était pas du tout la même approche. Voilà, tout ça a fait que j'ai choisi de changer de pseudo.
Et t'en es heureuse de ce livre?
Franchement, ouais. Franchement, j'en suis plutôt fière. J'en suis même très fière. Parce que je pense que ça amène un peu de nouveauté dans la romantasy, dans le sens où justement il y a un petit peu de forme en plus du fond. C'est pas que j'ai fait exprès d'écrire un truc joli, parce que je déteste quand on essaye d'écrire joli, mais en tout cas c'est le même cerveau, quoi. Donc mon style, ma plume, ma voix sont là, même si c'est très différent du thé pour les fantômes, mais on me dit quand même qu'on reconnaît une certaine musique, des images et tout. Et mon éditeur, pour le coup, avait peur. Il m'a dit, mais en fait, c'est trop bien écrit. Je pense que les actrices de romantasy, elles aiment juste que ça aille droit à l'essentiel, quand ça se concentre sur l'intrigue et tout. Est-ce que parce qu'en gros, elles vont pas trouver ça un peu trop littéraire, quoi. Et en fait, pas du tout. En fait, je crois que ça répond à un besoin qui n'était pas du tout exprimé de la part du lectorat, mais qui existait, qui était là. Où j'ai plein de lectrices qui me disent « Mais c'est bien écrit, et autant on adore lire Sarah Gimas où ça va droit à l'essentiel, où on se pose pas la question du style et où c'est hyper fluide, autant on adore lire aussi Porcelaine sous les ruines qui nous amène autre chose. » Et donc, en fait, je pense que c'est un lectorat qui est très sous-estimé et dont on pense que, voilà, qui est un peu... toujours obsessif et qui va exactement lire toujours la même histoire de la même manière et qui boude les livres qui sortent un tout petit peu des codes. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas.
Je pense que comme c'est un lectorat très féminin et que de toute façon, les lectorats féminins, qui plus est lectrices de romances, ont toujours été très mal considérés, c'est le fait que ça fasse un peu partie du monde de l'imaginaire n'a pas du tout changé ça. Et le fait aussi que les gros succès aujourd'hui et des plumes relativement droites au but renforce l'idée de beaucoup de gens de dire que c'est des lectrices simples, alors que non, en fait, c'est pas parce qu'on aime un genre qu'on aime forcément le même genre de plumes tout le temps, qu'on veut pas de la diversité, qu'on veut pas se challenger, qu'on n'aime pas d'autres choses aussi, parce que les lectrices de romantaisie ne lisent peut-être pas que de la romantaisie aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment très, très réducteur de dire que c'est trop complexe pour un type de lectorat. Au contraire, en fait, c'est trop chouette.
Ouais, carrément. Et tu vois, c'est une peur qui était complètement infondée, où je me disais, je vais peut-être faire un truc qui est trop romance pour mes lecteurs d'origine, donc je vais perdre mon lectorat, et qui est trop littéraire pour les lectrices de romantasy, et donc je vais pas non plus toucher ce public, et ce roman va être un flop. Et ben en fait, pas du tout, c'est tout l'inverse qui s'est passé, ça a réussi à réunir les deux lectorats, et la, voilà, la petite leçon que j'en ai tirée pour moi, pour l'avenir, c'est fais ce que t'as vraiment au fond du ventre, en fait, te pose pas la question de est-ce que ça va marcher ou pas. Et c'est dur à faire, hein. Franchement, c'est dur. Même maintenant, dire ouais, mais tu vois, j'ai tel roman qui a bien marché, donc... La tentation est toujours là de se dire « Est-ce que je recase un petit peu comme des ingrédients qui ont bien marché ?» Et je lutte contre ça en disant « Non, il faut que tu sois le plus sincère et authentique possible. »
Je pense que c'est une très bonne chose. Mais dis-moi, on parlait du fait que les lectrices étaient sous-estimées, mais les autrices aussi. Et moi, je note quelque chose dans tes deux noms. Ada Vivalda, ça sonne comme un nom féminin. Chris, pas tellement, c'est neutre. Et on en a discuté puisqu'on a eu, j'ai eu la joie et l'honneur de faire une table ronde avec toi sur, aux Imaginales, encore une fois 2023, sur l'avenir de l'imaginaire est-il féminin. Et tu nous avais évoqué une chose, la difficulté d'être une femme en fantaisie adulte. Parce que pour le coup, en jeunesse, il y a beaucoup d'autrices. Et je pense que même si on n'est pas toujours très bien considéré, en fait, on est tellement la majorité des auteurs et des autrices et des autrices que ça va. Mais en fantasy adulte, c'est plus complexe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Alors, là encore, je pense que c'est quelque chose qui existe puisque beaucoup d'autrices en parlent. Mais il faut savoir que moi, je ne l'ai jamais vécu. À ce jour, je n'ai jamais eu directement, en tout cas, affaire à des gens qui me mépriseraient ouvertement parce que je suis une femme en fantasy adulte. Alors peut-être que c'est plus sournois, que c'est plus invisible aussi, que j'aurais plus de, je sais pas, de prix de reconnaissance ou que sais-je si j'étais un homme, mais ça, on pourra jamais le savoir. Donc en tout cas, c'était une idée que j'avais de me dire, voilà, qui est fondée ou pas, je ne sais pas, parce que quand on parle de préjugés, c'est très dur de mettre des statistiques dessus. Mais je me disais, voilà, si les gens arrivent sur de la fantasy adulte, en plus, mon premier roman, c'était de la dark fantasy, vraiment, c'est pas un truc à mettre entre les mains des enfants, et qui voient un nom très féminin, moi, mon prénom complet, c'est Christelle. En plus, j'aime pas trop mon prénom, voilà, faut le dire. Eh bien, cette terminaison en E2LE, ça fait très féminin. Puis, je sais pas, je trouve que c'est un prénom qui renvoie aussi pas mal de clichés. Dans ma tête, en tout cas, je trouve que quand on s'imagine Christelle, on s'imagine moi. Et ça me fait chier. Donc, on s'imagine la fille avec la tête de première de la classe, les longs cheveux, la frange et tout. Et d'ailleurs, quand on regarde d'autres Christelle autrices, elles ont plus ou moins cette tête-là. Donc,
c'est vrai que Christelle Davos a aussi la frange, oui. Les cheveux longs, oui. C'est marrant.
Oui, Christelle Le Bailly aussi. On se ressemble, oui. Entre Christelle. Et donc, je crois que ça m'emmerdait un peu de me dire que je ressemble à mon prénom. Il y avait déjà ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu inconsciemment chez les gens aussi. Quand on voit un prénom, on se fait tout de suite une image, qu'on le veuille ou non, de la personne. Et je ne voulais pas que ce soit cette image-là, en tout cas, parce que ça ne correspondait pas au roman. Et que moi, la première, et ben, par exemple, quand j'ai lu L'Assassin Royal de Robin Hobb, et ben, j'étais persuadée pendant très longtemps que c'était un homme. Parce que Robin, en français, c'est que masculin.
J'ai découvert que ça l'année dernière, que c'était une femme.
Et ben moi, je l'avais découvert en cours de lecture de la saga. Et ça m'avait retourné. Et d'un coup, je ne voyais plus du tout pareil. Alors, c'est débile, hein, c'est le même texte. Mais je ne voyais plus pareil son écriture, son roman. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, je voyais beaucoup plus d'empathie dedans, de profondeur. Enfin, que ce soit positif ou négatif, je pense qu'on associe inconsciemment des qualités à une plume masculine ou à une plume féminine. Et que, bah, particulièrement en fantasy adulte, je me disais, si c'est un nom de femme sur la couverture, ça va rebuter d'office certains lecteurs. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit conscient et qu'il y ait des lecteurs qui existent et qui se disent « Ah non, 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 moi si c'est écrit par une nana, hors de question que je lis ça, ça va être cucu, la praline. » Je pense que c'est une petite minorité des lecteurs de fantasy. J'ose espérer que ce sont des lecteurs plus intelligents et ouverts d'esprit que ça. Je te vois lever les yeux au ciel, tu n'es pas d'accord.
Disons que je me souviens justement pendant notre table ronde qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la salle et que certains ont fait des remarques bah, disant que nos livres, ça se voyait dès la couverture, que c'était écrit par des femmes et tout ça. Et là, tu te dis,
ah bon, oh,
là, bah, tu
je
te
me rappelle pas.
Moi, je m'en souviens bien, ça m'avait énervée.
Alors, tu vois, peut-être que c'est ça aussi, que je suis d'une nature à éliminer les choses qui ne me plaisent pas et que c'est pour ça que j'avais perçu de discrimination en tant que femme. Voilà. Donc, peut-être que je suis dans une espèce d'ignorance, de naïveté bienheureuse, je ne sais pas.
Peut-être. Je ne sais pas. Tant mieux en vrai, mais c'est vrai que je t'en parle parce que bah, ça se voit notamment en traduction. Il y a des fois des livres traduits qui sont en fait publiés originalement, de façon originale, en fantasy adulte, qui sont traduits en jeunesse, parce que ce sont des femmes. Et c'est pas le cas pour les récits masculins. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Mais en vrai, si toi, tu trouves qu'en réalité, c'était plutôt une peur que quelque chose qui s'est réellement produit, bah tant mieux. Et j'ai envie de dire, c'est trop chouette et que ça continue comme ça, tu vois.
En fait, c'était un au cas où.
Ouais.
Au cas où les lecteurs... une partie des lecteurs, du moins, parce que je ne pouvais pas me permettre d'en perdre, c'était mon premier roman, serait rebutée par un nom de femme, autant prendre un pseudo qui soit plus neutre et plus simple aussi. Il faut le dire, Christelle Vuklicevic, déjà que Vuklicevic, c'est hyper long, alors bon, Chris, c'est plus simple que Christelle. J'aimais bien aussi l'idée qu'on ne sache pas si c'était français ou étranger. Parce que pareil, je pense qu'il y a une attirance, alors là, plus ou moins consciente pour les livres traduits, parce qu'il y a une forme un effet de, comment dire, un biais de confirmation. C'est que ça a bien marché à l'étranger, que ça a été traduit. Et puis, par contre, effectivement, si j'ai changé de pseudo Ada Vivalda, c'est que là, il me fallait un pseudo beaucoup plus féminin parce que c'est tout l'inverse en romantasy. Je pense que pour le coup, un auteur homme, ça ferait un peu grincer des dents et qu'on se demanderait ce qu'il vient faire là sur les plates-bandes de cette littérature par des femmes pour des femmes. Et donc là, j'ai pris un pseudo qui a le prénom de ma grand-mère et le nom de jeune fille de ma mère. Et parce que oui, je pense que le nom de l'auteur sur la couverture fait partie de l'objet, en fait, fait partie de toute la représentation qu'on se fait du livre, au même titre, que l'image du couverture, que la quatrième. Malheureusement, nos identités en tant qu'auteur sont des postures et sont des marques aussi, d'une certaine manière. Et on peut... Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent se battre et dire « je m'en fiche, j'assume ». Mon nom de femme très féminin sur une couverture et je veux que ça change, ou qui préfère moi, comme moi, en jouer et me dire bah, je joue avec cette marque. Et bien voilà, vous voulez pas lire de livres de femmes, bah, vous en avez lu un et vous le saviez même pas.
C'est une bonne idée aussi. Je pense qu'on a besoin des deux pour que ça change et que ça s'améliore. Les deux.
Après, en soi, si tu retournes mon roman, tous les adjectifs sont au féminin dans la bio, donc normalement tu peux pas trop te tromper.
C'est pas faux. On en parlait tout à l'heure. Mais tu as signé ton premier contrat de traductrice. En quoi cet autre métier nourrit ton écriture ?
Question intéressante. Je pense que déjà, ça me permet d'analyser en profondeur, mais dans un détail absolument extrême, d'autres textes. Et donc de voir un peu comment cette autrice du livre que je traduis, elle s'y prend pour faire évoluer la relation entre ses personnages. Voilà, je me demande qu'est-ce qui marche dans le texte. Là, je suis obligée d'aller en profondeur, voir comment ça fonctionne. Tout simplement, ça m'oblige à écrire même quand je n'écris pas. C'est une forme d'écriture, en fait. Il y a des choix à faire dans la traduction. De se demander mais voilà, comment je transmets cette phrase-là. Est-ce que je vais plutôt pour la version vraiment très littérale? Est-ce que je m'éloigne un petit peu? Quel degré de moi je mets dedans, à quel point j'imprime mon style sur le sien dans ces moments-là où il y a des choix à faire. Et ça me permet de prendre, je pense, du recul sur, bah, sur les choix que je fais, justement, qui viennent peut-être un peu spontanément, inconsciemment, quand j'écris. Là, tout doit être conscientisé et justifiable si on me pose la question. Donc, ouais, c'est super intéressant.
Ok. J'avais deux dernières questions, dont la question des auditeurs. Alors, il se trouve que tu y as répondu, puisque la personne demandait comment tu faisais pour être dans plusieurs maisons d'édition différentes et est-ce que tu avais fait les démarches ou quelqu'un était venu te chercher. Dans ton cas, c'est le même éditeur.
C'est ça.
Donc, du coup, j'ai une autre question des auditeurs qui est où as-tu puisé l'inspiration pour la psychologie du personnage multiple de Karine dans Du thé pour des fantômes? On en a parlé en plus tout à l'heure, donc c'était, c'était ma deuxième question préférée et le fait qu'on en parle, je pense que c'était un joli signe.
Alors, le personnage de Carmine, qui est la mère de Félicité et Agonie dans Du thé pour les fantômes, c'est une inspiration qui va vous paraître mais tellement débile et triviale que j'ai presque honte, mais il faut le dire, parce que l'inspiration peut venir d'un endroit différent. Il y a une application, vous la connaissez peut-être, qui s'appelle Se coucher moins bête. Je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est des toutes petites anecdotes, en général, de 5 lignes, sur des sujets très, très, très divers et variés. Et à une époque, j'aimais bien que mon mari m'en lise avant de m'endormir, ça m'aidait à m'endormir. Et un jour, il m'a lu une anecdote d'une femme dans un village, je ne sais plus, inuit, je crois, en Alaska, Groenland, enfin voilà, très 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 reculé dans le nord, où en fait, tout le monde était parti de son village inuit, c'était la seule restante, et du coup, elle avait pris tous les rôles du village. Elle était la mère, elle était l'éboueuse, elle était la commerçante, elle était la comptable, elle faisait tout en fait dans le village et elle avait aussi tous les rôles administratifs. Et je sais pas, je me suis dit, mais c'est génial comme idée, enfin, piste de femme qui a toutes ces personnalités-là.
C'est une auto-entrepreneuse en fait, cette dame.
C'est une autrice. Elle a 15 000 casquettes. Et je me suis dit, mais imagine si elle changeait de personnalité à chaque fois qu'elle assumait un rôle différent. Et j'avais écrit derrière un petit fragment comme ça qui décrivait cette femme, mais qui n'était pas du tout reliée au reste de mon roman. Et petit à petit, je me suis dit, mais attends, et si finalement cette personne-là avait quelque chose à voir avec Félicité Agonie, et si c'était leur mère, bah, qu'est-ce que ça a comme impact quand on a une mère comme ça? Et voilà, tout le reste après a découlé.
Ok, je suis très contente d'avoir pu poser cette question alors.
C'est la première fois qu'on l'a posée en plus.
Bah écoute, merci du coup à la personne qui a posé la question parce qu'elle était très chouette. Et sache que du coup, j'ai un peu de peine pour cette personne qui est toute seule dans son village quelque part dans le nord de la Terre. Genre, ça m'a créé une certaine forme de peine. Non, c'est vrai. Mais bon, j'arrive à la dernière question de cette interview qui est un peu la question signature qui se modifie en fonction de la personne en face de moi. Si tu devais donner 3 conseils à un auteur ou une autrice qui aimerait donner une voix particulière à son récit, que serait-il?
Alors, le premier conseil, je pense que ce serait de faire des essais et de ne pas se mettre de limites sur les différentes voix qui peuvent exister. Donc, d'essayer de, que ce soit LinkyPit ou un autre moment de votre roman que vous aimez bien, enfin voilà, prendre ou même quelque chose qui ne se retrouvera pas dans le moment, dans le roman, mais d'écrire un texte avec différentes voix et de différents endroits du récit. Est-ce que c'est une voix qui va être celle de votre héros, celle d'un personnage secondaire, un narrateur extra-diégétique, omniscient? Est-ce que ça va être, comme moi je l'ai fait, un narrateur qui est dans l'histoire mais qui est observateur? Et de voir ce qui coule le plus facilement. Parce que moi, vraiment, à partir du moment où j'avais trouvé cette voix, mais c'était un bonheur. J'avais jamais écrit aussi facilement. Les phrases venaient toutes seules. J'avais une voix. Donc ça, ce serait le premier conseil. Je pense que le deuxième conseil, ce serait de lire des livres qui ont justement des voix un peu particulières pour vous ouvrir le champ des possibles. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les 2 livres que j'ai lus à ce moment-là et qui m'ont vraiment permis d'avoir un déclic sur « ok, c'est possible en fait d'aller jusque-là dans l'oralité, dans la voix du narrateur », c'était « Voyage au bout de la nuit » de Céline, que j'avais jamais lu avant, qui est dans une oralité vraiment radicale, et « Novecento pianiste » d'Alessandro Barreco. Vraiment, je vous en supplie, allez tous lire ce livre, tous et toutes, même si vous vous en fichez de la voix dans votre roman. C'est un tout 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 petit roman qui se lit en 1 heure, c'est à la base une pièce de théâtre, c'est incroyable, c'est hilarant, c'est, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps à la fin, c'est une voix et qui est exubérante, qui est géniale, et qui en même temps est dans une poésie, une sobriété extraordinaire. Et en fait, j'ai lu ce roman quasi non-stop à partir du moment où je l'ai redécouvert. à ce moment-là, parce que je me suis dit, OK, c'est ça, en fait, que je veux faire. Et donc, je m'en imprégnais tout le temps pour être le plus proche possible de cette langue-là. Donc, ouais, voilà, d'aller lire des romans qui ont des voix qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui se rapprochent une fois que vous avez trouvé de ce que vous voulez faire. Pour justement, il n'y a pas de honte en fait à s'imprégner de ce qu'ont fait les autres. J'ai aussi beaucoup lu Le cœur cousu de Carole Martinez pendant l'écriture, parce que justement elle a installé une atmosphère de réalisme magique qui me parlait vraiment. Et donc voilà, j'essaie de m'imprégner de leur langue, de leurs mots, pour les passer au filtre de moi et les ressortir dans mon texte. Et le troisième conseil, je l'ai dit déjà plus tôt, mais faites vraiment ce que vous avez dans le ventre. Et vous ne posez pas la question de ce qui va plaire au lecteur. C'est terrifiant. Je veux dire, quand moi, j'ai écrit du thé pour les fantômes avec cette voix-là, c'était tellement intime et tellement personnel que du coup, ça en devenait hyper effrayant parce que je me disais, mais si ça ne plaît pas, je ne pourrais pas dire. C'est juste mon travail qui ne plaît pas. J'ai mis de moi dedans. Donc, il y a une vulnérabilité extrême à mettre ses tripes dans le roman, quoi, tout simplement. Mais je crois qu'il n'y a que ça qui paye au final, qui paye dans le sens où déjà le roman marche. C'est-à-dire que les gens, je pense qu'ils le sentent, cette authenticité. Alors ça crée du coup un petit paradoxe mental de « je veux être authentique pour que ça marche, mais si c'est pour que ça marche, c'est plus authentique ». Donc il faut réussir à se sortir de ça. Mais ça paye aussi parce que, que ça marche ou pas, derrière on a cette satisfaction profonde d'avoir fait quelque chose qui nous ressemble et qui sort de soi, quoi.
Voilà. Bah écoute, ça me semble être de très très bon conseil. Merci énormément Chris pour tout ce que tu as donné dans cet épisode de podcast. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller dans les notes de l'épisode pour découvrir tes réseaux sociaux, donc ton compte Instagram notamment, où tu es assez active et où tu partages beaucoup de ton quotidien. Peut-être tu les invites quelque part ailleurs, si tu es ailleurs. Je sais pas.
Ouais, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Le Club où on discute d'écriture sans filtre. Donc voilà, où avec quatre copines écrivaines, on parle d'écriture une fois par mois et de manière très décomplexée, où on ouvre vraiment nos bureaux pour vous montrer un peu où on en est et sur quoi on galère.
Très bon podcast aussi. En plus, c'est un des podcasts que je recommande le plus quand on me demande des podcasts d'écriture, parce qu'il est très chouette et vous êtes trop agréable à écouter. Et du coup, merci à toi pour cette interview.
Merci beaucoup Margot et merci pour tes questions, c'était très intéressant. Il y a eu plein de questions qu'on ne m'avait jamais posées et c'est agréable aussi d'être obligé de revenir sur soi-même et de réfléchir pour de vrai à ce qu'on a fait.
Donc, merci. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Si j'apprends que j'ai posé les mêmes questions que tout le monde, ça me rend très triste. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Oui, je suis en train de programmer beaucoup d'interviews, donc au moins vous allez avoir du contenu à la chaîne, c'est mal dit, mais en tout cas, beaucoup de contenu qui arrive.
Appel.
Exactement, à l'appel, c'est mieux comme ça. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain.